Chapitre 37, page 143 dans lequel on est. C'est un chapitre très très important dans lequel l'Admor HaZaken nous explique comment en vérité la finalité de ce monde-ci c'est Mashiach, mais que Mashiach n'est pas seulement une récompense que Dieu nous dit, bon, tu t'es bien comporté, alors je vais te donner une récompense pour ce que tu as fait. C'est beaucoup plus que ça. C'est comme on a expliqué dans les deux derniers cours. En vérité, par notre comportement pendant l'exil, on est en train de générer l'avènement messianique. Ça veut dire qu'on est en train maintenant, avec nos mitzvot, de créer Mashiach. Mashiach, c'est pas seulement une récompense. C'est un résultat. On a commencé à expliquer avec plusieurs exemples. D'expliquer comment, sans nous rendre compte, aujourd'hui, quand on fait des mitzvot, sans nous rendre compte, on change le monde. Alors c'est une idée qui est révolutionnaire, surtout quand elle a été dite, c'est révolutionnaire parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça. Mais quand on réfléchit bien, on voit que c'est mamache comme ça. Que quoi? Chaque fois que je fais une mitzvah avec un objet, je change le monde. Alors on avait donné un exemple concret. Hein. Par exemple, on reprend l'exemple de, tiens, allez, on va en prendre de la chips. Voilà. Vous vous rappelez la chips? On va redire bonjour à la chips.
On va manger
de l'énergie. D'où elle vient cette chips?
De la terre, de la pomme de terre.
Pomme de terre, très bien. D'où elle vient la pomme de terre?
De la terre.
Très bien, mais d'où de la terre elle vient? Qu'est-ce qui s'est passé
dans la
terre?
De la graine, quoi, normalement.
D'accord, etc., etc., etc.
On a semé.
Et à la base, on remonte jusqu'à où?
Jusqu'à
la création du monde.
Jusqu'à la première.
D'accord? Même si on va dire que les pommes de terre n'existaient pas à la création du monde et que c'est une grève de grève de grève, etc., ce qui est possible. C'est possible. Les pommes de terre, c'est peut-être...
Oui, ça a été inventé par Barmontier, sans que ça...
C'est pas trop...
Ça
a été découvert.
Ça, c'est découvert.
Découvert, oui. Attention,
oui,
découvert.
Oui, oui, d'accord.
Enfin... Non, on n'invente pas, les hommes n'inventent pas, les hommes découvrent.
Barmontier,
très important.
Grassin, hein.
Alors, on va pas en faire un chip Barmontier. Alors, alors, sérieusement, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici une pomme de terre. D'accord. Cette pomme de terre, voilà. Elle vient d'une autre pomme de terre, qui vient d'une autre pomme de terre, qui vient d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre. Je sais qu'on remonte à où? Je sais qu'on remonte à la création du monde, avec toutes les grèves qu'il y a eu. Donc moi, lorsque je prends cette pomme de terre, d'accord? Lorsque je prends cette pomme de terre, et que cette chip, c'est que je vais faire dessus une bracha. Qu'est-ce que je vais faire en faisant une bracha? Sans me rendre compte, on a expliqué. Je change le monde. J'élève vers Akadosh Baruch Hu toute l'énergie de toutes les pommes de terre qui ont été créées depuis la création du monde. Ça, c'est un premier exemple qu'on a donné. C'est ce qu'on a expliqué deux cours en arrière. Maintenant, le dernier cours, on est allé encore plus loin que ça. On a dit que ça va beaucoup plus loin qu'on le pense. Mais je vais donner un exemple concret. Dis, imaginez, par exemple, je suis en train de faire cours. D'accord? Là, je suis en train de vous parler maintenant. Avec quel membre de mon corps je vous parle?
Ma bouche.
Ma bouche. Et pas que ma bouche qui vous parle.
Non.
La langue et les lèvres.
Il y a mes mains, là. Vous en voyez mes mains, là?
Les yeux,
tout c'est tout mon corps qui parle. Alors finalement, en quoi mon corps participe à la mitzvah? Alors on avait expliqué une chose extraordinaire que dit la Gemara. La Gemara a dit que d'où provient l'oubli? Pourquoi on oublie ce qu'on étudie? C'est parce qu'on le vit pas. La Gemara a dit, plus tu fais participer les membres de ton corps, après, je dis pas qu'il faut bouger comme des fous, parce que bon, non plus, on n'est pas dans les signes ostentatoires. Mais plus tu fais bouger ton, plus tu fais vibrer ton corps de ton étude.
J'ai essayé cette semaine.
D'accord, hein. Ça a marché?
Un peu.
Bon, c'est bien.
Ouais, c'était la première semaine.
Oh, t'as donné une chaque
semaine.
Faut que tu t'entraînes.
Tu t'entraînes un peu. Et mon fils m'a dit, tu peux parler moins fort.
Non, j'ai pas parlé de ça.
Un peu.
C'est pas seulement parler plus fort, c'est vivre ce que tu fais. Et là, on est allé plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'en vérité, quand je fais une mitzvah, c'est pas seulement l'objet dans lequel je fais la mitzvah qui va s'élever. C'est mon corps entier. Et pas seulement mon corps entier, c'est-à-dire tous les membres de mon corps, et tout ce qui a donné de l'énergie à mon corps, et tout ce qui m'a permis d'arriver ici. Donc, le dernier cours, on avait parlé même de la voiture qui m'a amené au cours de Tania, de la route sur laquelle la voiture a roulé, du garagiste qui a arrangé la voiture, du concessionnaire qui a créé la voiture. Et de celui qui a donné l'idée de la voiture, et de ce, etc., etc., tu vois, jusqu'à la création du monde. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, chaque petite action qu'on fait a un impact sur toute l'humanité. Ça provient de toute l'humanité. En français, ils appellent ça, bon, c'est un peu à la mode de parler de ça, on appelle ça l'effet papillon.
Ouais.
D'accord? Alors, c'est quoi l'effet papillon? L'effet papillon, on vous dit comme ça, on vous dit que quand, il y a un papillon qui va bouger Il peut faire plusieurs milliers de coups à la minute, d'accord. Même s'il faisait ne serait-ce qu'un seul coup avec son petit coup de son petit battement d'aile, il a changé la physique, donc la circulation d'air du monde entier. Et ça, c'est pas la Tania qui le dit. Parce que c'est évident. C'est évident que chaque chose est importante. Une fois, je disais récemment, le rabbi a donné un exemple intéressant. Un exemple intéressant que vous pourrez répéter à votre femme. Dit comme ça. Ouais, on peut tout répéter, mais c'est un exemple intéressant.
Il y a des choses, t'as dit qu'il faut pas leur dire.
Non, on peut tout dire. Au contraire, les gens, quand on leur dit de pas dire, c'est ça ce qu'ils vont dire. Donc, c'est une technique. Bon. Comme vous savez, les gens essaient de Shalom Bayit, dire attention les hommes à ne pas lire. Et ça, les femmes. comme si que. Alors, je disais, un exemple que le rabbi donne. On va prendre la maison. Qui c'est qui gère la maison, M. Benita ? L'homme ou la femme ?
C'est la femme.
D'accord, vous êtes d'accord. Très bien. Maintenant, dans la maison.
Elle gère tout.
Elle gère tout, très bien. Dans la maison, tout est organisé. Chaque chose est à sa place. Baruch HaShem. Chaque chose, il y a ce qui est à la place de la cuisine, il y a ce qui est dans le placard du haut, il y a ce qui est dans le placard du bas. Dans le placard du haut, il y a ce qui est dans l'étagère du haut, il y a ce qui est dans l'étagère du bas. Maintenant, nous les hommes, on ne comprend rien à ça. Maintenant, quand ta femme te dit, prends ça s'il te plaît, mets-le dans tel placard, telle étagère. Toi, tu prends, et tu vas poser dans un placard à côté. Qu'est-ce que ça change ? On est dans la cuisine, on est dans la maison. Etc.
Ça change la vie, hein.
Ta femme va ouvrir le placard, qu'est-ce qu'elle va voir ?
Oh là là,
ouais. L'objet, il n'a pas été posé à l'endroit où tu l'as dit. Qu'est-ce qui va se passer ?
Rien.
On s'est engueulé.
Hein ? Elle va hurler.
Elle va pas être contente. Ouais. Maintenant, toi, en tant qu'homme, tu ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas ? Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que ça change ? Et à juste titre, je dis, mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change si je l'ai mis ici ou je l'ai mis à un mètre d'ici ? C'est la même chose. Pour moi, ça ne change rien. Mais pour elle, la façon comme elle organise sa maison,
ouais, ça lui change la vie complètement.
Ça lui change la vie, exactement. C'est même que ça lui change la vie. Pour elle, le fait que cet objet soit posé à cet endroit, c'est comme ça qu'elle a imaginé sa maison. Et la table de chevet, elle a imaginé à tel endroit. Et la table du salon, elle a imaginé exactement à tel endroit. Et le canapé, elle a imaginé exactement à tel endroit. Quand toi tu y viens, tu dis elle a bougé de 30 cm, c'est pas ce qu'elle voulait. Alors c'est une femme, d'accord ? Et c'est pas quelque chose de tordu, c'est la nature d'une femme. La nature d'une femme, c'est que quand elle a sa maison, dans sa maison, chaque détail est très important. Même l'endroit dans lequel se trouve le sel, c'est important. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça change? Il est là ou il est là? Ça change rien, on n'a rien à faire. Tout est important. Après, c'est la femme qui décide à quoi elle accorde l'importance. Je vous donne évidemment des exemples. Alors, le rabbi dit, c'est la même façon par rapport à Kadosh Baruch Hu. Si déjà, c'est comme ça par rapport à une femme, qu'elle gère sa maison comme ça, et que chaque chose est très, et que c'est bémet important pour elle. Parce que vous savez, quand une chose n'est pas importante, avec le temps, ça s'estompe. Avec le temps, bon, après 10 ans, 20 ans de mariage, c'est fini, il n'y a plus. Mais quand tu vois qu'il y a un truc, même après 20 ans de mariage, c'est toujours là, c'est que c'est un truc qui est vraiment important pour elle. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est vraiment important pour elle. Pour moi, c'est pas vraiment important. Pour elle, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme dit le rabbi, pour la femme, ce détail peut être un détail tellement important que de ça dépend la sérénité et la structure de la maison. Il y a rien à faire, tu peux pas discuter avec ça. C'est comme ça. Ça veut dire, elle dit, je veux que tel habit soit posé là, tel objet soit posé là, je veux que mon fils ou ma fille s'habille comme ça tel jour, va comprendre. Il ne cherche pas à comprendre. C'est comme ça par rapport à une femme, et que c'est quelque chose de bien. Parce que c'est la Torah qui a décidé que c'est la femme le pilier de la maison. Comme c'est la femme qui est le pilier de la maison, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a donné ses qualités. Alors qu'Alvaro, mère, a plus forte raison par rapport à Kadosh Baruch Hu. Que par rapport à Kadosh Baruch Hu, chaque détail qu'il y a dans le monde est ultra précis. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça veut dire que si Monsieur Charles Benita, d'accord, il habite en France en 2016, bientôt 2017, c'est qu'il y a une raison. Il y a eu peut-être un autre Charles Benita qui a vécu peut-être au Maroc il y a deux siècles, mais c'est pas le même Charles Benita qui est là maintenant. Pourquoi ? Alors Monsieur Benita, il répond, c'est un hasard.
Non, parce qu'il pose des questions.
D'accord. Mais c'est vrai, il va me dire, c'est un hasard, qu'est-ce qu'il y a que ce...
Enfin, on le sait.
Vous auriez préféré, M. Benita, est-ce que vous auriez aimé vivre au Maroc, ça fait 200 ans?
Oui. Non, on continue de vivre ici aussi. Hein.
Non, répondez à ma question. En fait, nous, on ne comprend pas. Nous, on est là, on se dit, qu'est-ce que ça change? Si je suis là, si j'habite ici, si j'habite là, si je fais ci, si je fais ça. Insignifiant. C'est pas insignifiant. De la même façon que chez la femme, on a expliqué que plus elle est méticuleuse et plus chaque détail est important. Imaginez à Kadosh Baruch Hu, Imaginez Akadosh Baruch comme une femme ultra méticuleuse qui te met chaque objet à sa place et qui te donne des mitzvot ultra précises. Il te dit à chaque moment de la journée, voilà ce que tu dois faire et voilà où tu dois le poser et voilà comment tu dois le poser.
La différence, c'est qu'on n'entend pas hurler. Hein.
Il hurle à sa façon.
On est sourd, là.
Faut l'entendre, c'est tout. C'est pas pour hurler que je voulais amener l'exemple. C'est pour montrer qu'il y a une précision. Et que même s'il y a des gens qui n'accordent pas d'importance à la précision, pour une personne qui accorde de l'importance à la précision, c'est important. De la même façon pour un cadeau, je m'en prends. Et ça, c'est la même chose. Moi, je crois que j'ai mangé du thon, ou que j'ai mangé une chips, ou que j'ai pris du chouette, ou que j'ai pris de oisis, ça change rien. Chaque chose a une raison. Si à Kadosh Baruch Hu que maintenant j'ai pris du oisis et pas du Schweppes, c'est que ça me correspond et que je vais récupérer les étincelles qui étaient dedans. Alors ça peut nous rendre fous. Je vous dis clairement, ça peut nous rendre fous. J'ai déjà vu des gens qui sont venus fous à cause de ça. Parce que ça te rend fou. Si tu prends ça au pied de la lettre et tu commences à réfléchir, ça te rend fou. C'est pas possible. Chaque chose qui t'arrive, tu te dis mais pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est comme si. Il faut quelque part à un moment limiter, il faut à un moment s'arrêter. Dire bon écoute, à Kadosh Baruch Hu il fait les choses, il faut le laisser faire. Mais il faut comprendre ça. Que chaque chose que je fais a une influence sur le monde entier. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Donc là, on a déjà développé deux paliers dans notre cours. Premier palier, s'il y a deux cours en arrière, on a expliqué la notion que dans toute la matière, en élevant la matière, j'élève l'origine de cette matière jusqu'à la création du monde. Ça, c'est deux cours en arrière. Et on a expliqué dans le dernier cours que c'est pas seulement l'origine de la matière que j'élève, mais c'est tout ce qu'il y a autour, tous les moyens qui m'ont permis de faire ce que je fais maintenant. Donc en vérité, tout est là. C'est tous les hommes depuis la création du monde, c'est tout ce qui est autour de moi. Tout.
La question qu'on peut se poser, c'est quoi l'origine pour être capable d'accueillir tout ce qui nous entoure.
L'origine, c'est Adam.
Non, mais tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe maintenant.
Mais tout est important.
Mais c'est
toute l'histoire de Paris est importante pour la mitzvah que Jacques Mémy a fait aujourd'hui.
Non, mais c'est pas ça la question.
Parce que vous avez évolué dans.
Tu dis que ça, voilà, ça vient de l'origine, oui. Ça vient de l'origine de la création. Ça aussi. Ce qui s'est passé il y a 10 secondes aussi. Ce qui va se passer dans 13 minutes, pareil.
Oui.
Donc, l'origine, c'est quoi cette origine ? C'est pas.
Ça veut dire qu'en vérité, ce que vous explique la Chassidoute, c'est qu'il ne faut pas imaginer le monde.
C'est un truc énorme,
je comprends ce que vous voulez dire. La Chassidoute vous explique la chose suivante. D'un côté, on te dit que chaque détail est important, ce qui est vrai. C'est-à-dire chaque petit détail est important, il n'y a pas un acte qui est insignifiant. Et d'un autre côté, on veut t'expliquer qu'il faut comprendre. Que chaque détail fait partie d'une masse de détails, qui est depuis la création du monde. Et en bougeant un petit élément, je bouge tout.
Non, mais cette masse, comment elle se présentait ?
C'est par rapport au
temps. Elle évolue avec le temps.
Dilatation et propagation des ondes.
Non, je ne rentre pas dedans. Je ne parle pas de l'aspect physique, je suis dans l'aspect métaphysique.
Non, mais même métaphysique, c'est Hachem qui a fait ça.
C'est quoi ? Donc, c'est
le début de l'existence.
Si vous voulez, le début de l'existence, c'est comme ça. Je vous donne un exemple.
Premier atome.
Je vous donne un exemple. Imaginez cette table. D'accord ? Vous voyez une table ? Il y a une table. Imaginez sans la nappe. Bon, je la prends à la couleur brute. Elle était, je sais pas, marron. Ensuite, je prends un rouleau de peinture. Je vais la peindre en blanc. Ensuite, je prends un autre rouleau de peinture. Je vais la peindre en rouge. Ensuite, un autre rouleau de peinture. Je vais la peindre en vert. Donc, du coup, quelle couleur vous allez voir maintenant vous, vous allez voir vert. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Cette table a une histoire. Elle a en elle du vert, du bleu, du rouge, toutes les couleurs qu'on a mis.
Oui, sauf que là, tu es en train de dire.
Sauf que quoi? Sauf que l'être humain, il a un défaut. C'est un défaut, c'est comme ça. Dieu, il fait exprès ça, parce que sinon, ça nous aurait rendu fous. C'est que l'être humain, il se limite à ce qu'il voit. Ce qu'il voit, il prend. Ce qu'il voit pas, il dit, moi, je sais pas ce qu'il y a dans les coulisses. Mais il te dit en vérité, il faut que tu comprennes que le monde a une histoire. Et que chaque chose que tu fais a un impact sur le monde entier. Et c'est pas seulement sur le monde entier à l'état actuel, sur le monde entier avec toute son histoire. Et on va donner des exemples sur notre vie maintenant. On va avancer un petit peu.
Ça peut avoir un impact sur le passé.
Bien sûr, un impact sur le passé. Bien sûr, un impact sur le passé. Bien sûr.
Comment je peux changer le passé?
Vous allez faire une mitzvah. Vous allez faire une mitzvah, vous allez vous élever. Qui c'est qui vous a créé? C'est vos parents. Qui a créé vos parents? C'est leurs parents, etc. Et leurs parents, et leurs parents. C'est-à-dire qu'en faisant une mitzvah, vous allez élever toute la ligne Bénichou jusqu'à la création du monde, jusqu'à Adam Rishon. En faisant une avéra, c'est le contraire, on dit.
Les remords, c'est par le passé, par rapport au passé. Les
je me posais la question, est-ce que ça avait un sens de s'intéresser justement à tout ça? Parce que ça, c'est l'affaire d'Hachem. C'est pas notre affaire.
Oui, c'est
alors
pas...
que là, avec ça, avec l'histoire de rebouger le passé.
Mais c'est pas. Mais c'est une réalité, c'est ce que je vous dis, c'est la réalité. On change le monde. C'est une réalité, il faut être conscient de ça. C'est pour ça que les gens ils pensent que Machiar, ça va venir tout seul. Machiar, ça vient avec nos actions. On va avancer un petit peu dans les bois. On a la page 140, 143. Zod veod acheret. Vous avez dans les mots? Zod veod acheret, page 143. Shekoach hanefesh achiyuni amitlabeshet beotiyot hadibur betalmud torah tefila vekoytzeva mezot masiyot. Arei kol gidulo vechayuto ume adam shehu mikli... J'accélère un peu, parce que je vais expliquer. Page 143. Shehu miklipat noga mamash. Vous avez dans les mots? She'en kol ochalin umashkin she'achal veshata venasudam she'ayutachat memshalta ve'yanku chayuta mime. On va essayer d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Lorsque je vais accomplir une mitzvah, maintenant on va revenir à l'homme. Lorsque je vais accomplir une mitzvah avec un membre, d'accord? Par exemple, je vais utiliser ma main pour mettre les tefillin. Ok? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Quelle énergie est dans ma main qui est en train de mettre les tefillin? D'où vient cette énergie?
Les muscles. Les muscles
recours. D'où vient cette énergie? Qu'est-ce qu'il y a là? D'où vient cette énergie là? Là, j'utilise ma main.
Oui.
D'accord? Je prends une lanière et je vais l'attacher. D'où vient l'énergie qui est ici? D'où elle vient?
De tout.
Elle vient de mon corps. Elle vient de mon corps. On dit qu'elle vient d'abord de mon sang.
Du sang.
Ça passe par le sang.
Parce que tu dis que c'est une envie?
C'est?
Une envie?
Non, c'est pas une envie. Il y a une énergie. Il y a de l'essence. Comme une voiture. Si la voiture elle tourne, si le moteur il tourne, c'est qu'il y a de l'essence. Il y a un moteur, mais il y a de l'essence.
Je sais pas pourquoi tu prends le sang.
Parce que c'est écrit que l'énergie elle vient, elle passe par le sang. Le sang est un vecteur d'énergie. D'accord? Alors, on continue. Maintenant, quand vous prenez le sang, d'où vient ce sang? Attendez, mais qui a généré ce sang? Il y avait un bébé, il était là, il pesait 3 kilos.
Ouais.
Maintenant, il y a un grand bébé, il pèse 80 kilos.
Ouais.
D'accord? Il y a un petit bébé, un grand bébé. Le petit bébé, il avait combien de kilos de sang?
3 litres seulement, il en avait.
Il avait un litre?
Non, il avait toujours la même quantité.
Ah ben non.
Non. Il prenait 7 kilos sinon.
Il avait un litre de sang. Il avait un litre de sang. Maintenant, il a grandi ce bébé. Il a combien de litres de sang?
Il faisait 5 litres normalement.
20? Combien? 5 litres. D'où viennent ces litres de sang?
C'est le biberon qui se transforme en sang.
D'où ils viennent? D'où ils sont sortis? C'est l'alimentation. Vous êtes d'accord? Donc, attendez, je vais aller plus loin. D'où ils viennent? Ils viennent de l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec l'alimentation, quand je me suis nourri, avec tout ce que je me suis nourri, ça a généré un extrait. Cet extrait, c'est mon sang. Vous êtes d'accord? Donc, maintenant, lorsque je vais utiliser mon énergie, étant donné que je vais utiliser l'énergie que j'ai en moi pour faire une mitzvah, cette énergie, elle va passer par le sang. Et que le sang, il a été généré par tout ce que j'ai mangé et tout le sport que j'ai fait et toutes les vacances que j'ai fait.
Vous comprenez ce qui n'était pas caché?
C'est une bonne question. D'accord? Ça, j'y arrive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette énergie, j'avais plein d'énergie en moi, c'est une énergie qui était neutre. Une énergie qui était neutre. Qui était ni cachère, ni pas cachère. On parle d'énergie neutre. Quelqu'un, il a mangé du thon, il a mangé un steak, il a mangé tout ce que tu veux, il a mangé. Très bien. Cette énergie, c'est une énergie qui est neutre. Quand maintenant j'utilise cette énergie, et j'ai fait une mitzvah, sans me rendre compte, le même phénomène que je vous ai expliqué par rapport au monde entier, il se passe en moi. C'est que, étant donné que cette énergie vient de plusieurs choses, quand je vais utiliser cette énergie pour faire une mitzvah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, je suis en train d'élever cette énergie. Vous me suivez? Je vais aller plus loin. On va prendre un exemple. Quelqu'un, par exemple, va faire un don. Il va donner 100 euros à la tzedaka. Bon. D'où il a eu ces 100 euros?
Il a travaillé.
Avec quoi il a travaillé?
Avec son sang.
Avec son corps. Donc, il a mis une partie de lui dans cet argent.
Il est chaud, le petit cahier.
Oui. Bah oui. Il a mis une partie de lui dans cet argent, vous êtes d'accord avec moi? Bonsoir. Ça va? Ça te fait mal? Donnez. Donc il a mis une partie de lui dans cet argent. Quand maintenant il va donner cet argent, c'est comme si qu'il avait donné une partie de lui. Et il n'est pas en train d'élever seulement son argent, il élève aussi tout le travail qui lui a permis d'arriver à cet argent. C'est-à-dire, quand on réfléchit comme ça, ça nous permet de réfléchir et d'élargir les horizons beaucoup plus.
Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans les comptes, par exemple? C'est-à-dire, on parle du sang avec la cache-route et la non-cache-route. On parle de l'accent avec la tzedaka pour un voleur qui a été volé et dévalisé. Et il a pris cet argent, il l'a donné. Qu'est-ce que tu fais avec
ça? Ça ne peut pas. Ça ne marche pas, ça.
Ça ne marche pas.
Un argent qui a été volé, c'est un argent qui est bloqué. Il ne peut pas monter chez Hachem.
Ok.
Je ne sais pas, ça dépend de l'ancien. Ok, on va continuer. Donc, mitaperet mera l'étov. J'ai tourné la page, je suis à la page 144. Ve'ata mitaperet mera l'étov nirkhel dikdusha. J'accélère, hein, parce qu'on a déjà expliqué beaucoup à l'oral. Aliede koach nefesh achunit egadel mimena. Shitlabesh beotiot ele ovasi azo. Asher hen hen tmiut retsonit barre blushum estarpanim. C'est ce qui se passe en vérité. Quand je fais la mitzvah avec mon corps, donc finalement je prends l'énergie de mon corps, et toute l'énergie de mon corps va s'approcher, va monter chacun de Baruch Hu. C'est extraordinaire. Ça veut dire que sans me rendre compte, quand je fais une mitzvah, c'est mon corps entier, tout mon historique, tout mon vécu depuis ma naissance qui monte vers Akadosh Baruch Hu. Parce que, vous comprenez ce que je veux dire? Mon corps, mon psyché, mon sang, tout ça, c'est un vécu, c'est quelque chose que j'ai construit. Donc quand j'utilise tout ça pour servir Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que je suis en train de faire monter tout ça vers Akadosh Baruch Hu. Je sais pas comment, je vous donne un exemple concret. Imaginez par exemple, je vais expliquer à quelqu'un quelque chose. Je vais expliquer une idée de Torah. Et pour lui expliquer cette idée, je vais utiliser des mots de la langue française. Où j'ai appris ces mots de la langue française?
À l'école.
J'ai appris à la maison, j'ai appris à l'école. D'accord? Ces mots que tu as appris à l'école, ça veut dire que le cours de français que tu as fait à l'école, c'est pas de la gdusha. C'est un cours de français. C'est quelque chose qui est neutre. C'est ni pur, ni impur, c'est rien. Quand j'utilise maintenant cette connaissance que j'ai, et avec ça j'en fais une mitzvah, j'élève ça aussi.
Il devient kadosh.
Tout! Si maintenant je vous fais un cours, et dans le cours je vais vous donner un exemple de maths, un exemple que j'ai entendu quand j'étais à l'école. Le cours de maths en soi, il n'était pas kadosh. Mais si je l'utilise et j'en fais maintenant un exemple qui va vous aider à mieux comprendre un cours de Torah,
il devient kadosh.
Et bien ça devient kadosh. Ça a de quoi rendre fou ça. C'est-à-dire c'est ma mâche. C'est partout on voit ça. C'est ici. Donc il va continuer dans les mots, il dit valier dézé, t'as allé gam ken kelout libano yashiklout achiyut shel mazeg hashem v'chomri. Je vous ai raconté une histoire la dernière fois, mais je vais la rappeler parce que je la racontais rapidement. C'était une période dans laquelle le rabbi parlait beaucoup de ce sujet. Dans les années 70, le rabbi parlait énormément de ce sujet, de l'importance que sans nous rendre compte, en faisant la Torah et les mitzvot, on raffine le monde entier, on élève le monde entier vers un kadosh baruch hu. Et suite à ce discours que le rabbi a fait, il y a eu, vous savez, le rabbi avait des entrevues privées. Il y a eu une personne qui est venue en entrevue privée chez le rabbi, et qui lui a dit, rabbi, j'arrive pas à comprendre. Il dit, je comprends que nous les juifs, c'est vrai, nous les juifs, bon, on fait des mitzvot, on élève la matière, etc. Mais il y a des centaines de millions de chinois, des milliards, qui ne savent même pas que les juifs existent. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on est en train de raconter, nous, on est en train de faire les bons, on dit, oui, tu comprends, quand tu fais une mitzvah, tu élèves, etc. Bon, c'est bien, nous on connaît, mais combien on est par rapport au monde? On est des minorités, on n'est même pas 0,001%, on n'est rien, des minorités.
0,2%.
Combien?
0,02,
vous voulez dire.
0,2% de la population mondiale. On est 14 millions, et il y a un juif, 514 non-juifs en face.
Si vous avez calculé, je vous fais confiance. Bon.
On est 7 milliards, combien?
C'est 7 milliards.
On n'est pas 0,2,
c'est pas
0,2%. Il va nous faire le ratio. Fais-nous 12 millions sur 7 milliards. Peut-être qu'il y a
15 millions.
On tourne à 12, aujourd'hui 12, 13. Vas-y, Yves, tu nous as fait le calcul?
Non, il a raison.
14 millions.
700
millions, 7 millions. Non, fais 7 milliards. 7 milliards.
Fais 7 000 multiplié par 0,2, ça fait 14 millions.
7 millions. C'est 14 millions. Par 7
milliards. Ah oui, exactement.
Ça, c'est 0 millions, pas 700.
Ça, c'est 0,2%.
J'ai une autre chose. 0,03.
Moi, je suis avec toi, Charles.
Merci. Bon, en tout cas.
On parlait du 0,2 jour de Chinois.
0,010.
Alors,
0,017.
0,017. Pas, il a dit 0,2.
Bah oui, 0,0.
Ah bah oui, d'accord.
C'est ça. Dites-moi.
0,02.
Non, c'est pas.
Bon,
non, non, parce qu'on est parti sur une base de 14 millions.
12
millions. Non, on est 14 millions.
14 même millions. Même quand les 18, les agents
juifs.
Pas grand chose. 0,2.
Bon, 0,02.
Bon,
Malit Nasser l'a fait rien.
Bon, je reviens à la question. Non, mais du coup, on s'est écarté. Le rabbi, il a posé la question. Pardon, quelqu'un, il a posé la question au rabbi. Il a dit, vous arrêtez pas de dire que quand on fait une mitzvah, on élève, etc. Il dit, mais regardez, on est minoritaire dans le monde. Il y a des milliards de personnes dans le monde qui sont même pas au courant de ce que vous racontez. Alors, à quoi ça sert de parler de ça? Vous savez ce que lui a répondu le rabbi? Le rabbi lui a répondu une réponse. Il lui a dit, regarde ton manteau. Écoutez bien la réponse du rabbi. Bon, c'est pas grave, laissez les calculs. Écoute la réponse.
Voilà. Là, il y a 7 milliards. C'est même pas. C'est 2 pour 1000.
0,002.
C'est encore moins. C'est encore 1,02 moins. C'est 0,002.
Ne fais pas confiance à la calculette.
Il y a avec toi quand même,
Charles.
Oh, c'est pas grave. On est là quand même. Non, mais, monsieur Benita, vous valez 99.
2 pour 10 000.
100.
2 pour 10 000, exactement.
2 pour 10 000.
Ok, on continue. Donc ça veut dire concrètement, ça veut dire la chose suivante. Donc il y a ce juif qui est rentré, hein, vous ne me laissez pas parler là, hein, qui est rentré en Yechidut chez le rabbi. Et il lui a dit, je comprends pas, vous arrêtez pas de dire qu'un juif, quand il fait une mitzvah, il change le monde, etc. Il dit, mais d'abord les juifs, qui est au courant de ça chez les juifs? Ils ne connaissent même pas ça les juifs. Et même ça veut dire que les juifs sont au courant. C'est une minorité de minorité. Regardez les milliards de Chinois, ils sont même pas au courant. Ils sont centaines de millions, ils sont même pas au courant de ça. C'est ce qu'il a répondu le rabbi. Écoutez la réponse du rabbi. Le rabbi lui a répondu, il a dit comme ça. Il a dit, monsieur, regardez votre manteau. Il a regardé son manteau. Moi, il avait un manteau chinois. Made in China. Il a vu l'étiquette, il a compris. Made in China. Pourquoi tu crois que t'as un manteau made in China? Ou made in Italy, où vous voulez, hein, bon. Vous prendrez selon vos moyens, vous choisirez où vous voulez. Tu crois que c'est stable comme ça, par hasard? Tu vas porter un vêtement qui vient d'Italie, de Chine ou d'Allemagne, je ne sais pas où, tu vas porter ce vêtement. Et bien le rabbi te dit comme ça. Tu dis qu'en vérité, un juif, il fait son travail peut-être même sans se rendre compte. Sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'il va brasser de l'argent, il va brasser des marques, il va brasser des choses, des objets qui viennent d'ici, qui viennent de là-bas. Et lui, il croit juste qu'il a acheté. Il a fait shopping. Mais il ne se rend pas compte, c'est le mot du rabbi, que Atzat Hashem Itakum, que c'est le conseil de Dieu qui est derrière ça, et Kadosh Baruch Hu est en train de manipuler le monde et le juif pour faire en sorte que tel objet tourne autour de tel juif parce qu'il doit récupérer cette énergie. Maintenant, le rabbi il dit, des fois ça peut prendre plusieurs gilgoul. C'est-à-dire des fois ça peut prendre plusieurs générations, et des fois il y a un premier gilgoul qui a fait quelque chose, qui était dans tel pays, qui n'a pas terminé, donc Dieu il va faire en sorte que telle personne, tout d'un coup il aura envie d'aller pèleriner en Tunisie. Va comprendre. Il est là, monsieur, il n'est pas là aujourd'hui. Il a envie d'aller pèleriner en Tunisie. Je dis, mais quel rapport? Pourquoi il veut pèleriner en Tunisie? Non, quel rapport? Bon, c'est bien, il y a des choses importantes là-bas. Quel rapport? D'un coup, il va aller, il a une envie. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Nous, on croit qu'on décide tout ça. Mais en vérité, le rabbi te dit, tu décides rien du tout. Tu décides rien du tout. Parce que chaque chose a son temps précis. Et chaque chose a son origine. Et chaque chose a son but. C'est ce qu'il te dit. Alors, il te dit comme ça. Il est où ton?
Le libre arbitre,
c'est est-ce que je fais la mitzvah ou je la fais pas? Il est pas où tu atterris.
C'est le choix.
Tu décides rien du tout.
Donc en fait, tu es en train de me dire que quoi qu'il arrive, on est dans le véhicule, que Akadosh Baruch
Hu. Évidemment, mais évidemment.
Après, on a le droit d'allumer la télé ou pas la radio, ou pas la radio, c'est ça?
Mais évidemment. J'ai quelque chose de très simple. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui vont te parler de l'IA. Des gens qui ont décidé de faire l'IA. D'accord.
Merci, il faut le dire au chef.
Quoi? Il avait raison. 2 pour 1000, 1 pour 500, il avait raison.
1 pour 500.
On lui rend ce qu'il doit faire.
Ah ouais. On rend à Charles ce qui appartient à Charles.
Pas confiance, c'est calculette. Pas confiance, c'est calculette. On aime comme on joue, on vient.
Bon.
Enfin, ce sont les statistiques que j'ai lues, voilà, bon.
Bon, eh bien.
C'était quand?
Mais combien on pèse en réalité?
Ah,
un micro-microbe.
2 pour 1000.
Non, combien on pèse?
En réalité.
Rien du tout. Tu sais pourquoi?
Ils sont partout.
Parce que nous sommes 14 millions dans le monde, et en face, on a 1 milliard 600 millions de musulmans. Si on considère que les 14 millions, ce sont tous des ingénieurs, des techniciens, des grands avocats, etc., dans le 1 600 000 000, il n'y a pas 14 millions d'avocats, de techniciens?
Non.
Si.
Non.
Ah si. Ah si, c'est pas possible. C'est chez pas les chrétiens, il y a 1 600 000 000. Il n'y a pas 14 millions.
Il n'y a pas.
Mais évidemment, il y a. Évidemment.
Vous avez parlé des.
Pendant les chrétiens.
Bon, on continue.
Pendant les chrétiens.
Maintenant, je vais aller plus loin.
Alors,
je vais aller plus loin, monsieur Benita.
Même en
on va aller plus loin. Chez Bechol Israël, Amitra Leka de Fratout, le Shimribo. En vérité, ce qui explique ici le Mourant Zaken, une notion très, 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 très importante, qu'on va développer dans la suite. C'est qu'en vérité, je sais que vous avez déjà entendu certainement cette idée-là, il y a 600 000 âmes. Vous avez déjà entendu parler de ça, 600 000 âmes?
Ah, ça, c'est la sortie.
On remarque, par exemple, chaque fois qu'on sort d'Égypte, toujours on dit 600 000.
Ouais, c'est ça.
Il y a eu un premier recensement, après un autre 1 an plus tard, après un autre 38 ans plus tard, on est toujours le même nombre.
Alors qu'ils étaient 300 000.
Eh, parce qu'il y a eu des morts, entre temps.
Non, mais voilà, mais toujours, tac, on tourne toujours autour de 600 000. Comment c'est possible? Comment tu peux tourner toujours? C'est à chaque fois, c'est même pas des chiffres grossis, c'est toujours le même chiffre. Alors en fait, les commentateurs disent comme ça. Ils disent que, bon, bien sûr, là, on parlait d'un renouvellement physique. Mais il y a une notion qu'en fait, il y a 600 000 âmes. Lorsque Kadosh Baruch Hu a créé Adam Harishon, Adam Harishon était une grande Neshama qui a été scindée en 600 000 étincelles. 600 000. Alors, je vais aller plus loin. Et là, tu vas utiliser des calculettes. Chacune de ces 600 000 étincelles a été scindée elle aussi en 600 000.
Alors 600 000, pas 600 000.
D'accord.
600 000, 600 000.
J'ai pas fini.
Racine carrée, 600 000.
Mais très bien. Non, je sais pas si. Non, c'est sûr que c'est possible.
600 000, 600 000. Puissance 600
000. Non, pas au carré. 600 000 à puissance 600 000. C'est au carré, c'est pas racine carrée. C'est 600 000 fois 600 000.
Non, 600 000 à puissance 600 000.
C'est 600 000 fois 600 000.
Non, 600 000, les chamottes. On va laisser, il veut notre comptable, il va les calculer. Alors.
Bah ouais, donc 600 000.
Bah mais il nous faut le résultat. Et attendez, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Et après, ce qui va se passer, donc déjà, t'as 600 000 neshamot.
Chaque neshamot, 600 000.
D'accord?
C'est oui, 600 000, 600 000.
Et chacune de ces 600 000 neshamot se scinde, elle aussi, en 600 000.
Oui, là, ça...
Très bien, j'ai pas fini. Maintenant, tu multiplies ça fois 5.
Oui.
Parce que chaque parcelle de Neshama a 5 niveaux.
1800 milliards.
Non,
un trilliard.
Voilà. Là, vous avez le nombre de Neshamot.
1800.
Maintenant, attention, je veux compliquer, je vais vous embêter un peu plus. Donc, je vais vous embêter un peu plus.
Est-ce qu'une Neshama, c'est femme?
Non, attendez, je vais aller plus loin. En vérité, chacun de nous est une combinaison. Rabotaille. Vous écoutez ce que je dis?
Moi, je pose pas la question, je prends la voiture. Moi, je vais regarder la voiture.
C'est quoi, hein?
Moi, je pose même pas la question. Je veux pas qu'il y ait des numéros, moi, je prends la voiture.
Moi, je reste zéro là-dedans.
Il nous casse les pieds avec la circulation.
Je vais 35 euros.
C'est comme ça qu'il faut voir les euros. Je reprends. Chaque neshama, maintenant chaque neshama que nous avons, en vérité, c'est pas juste une étincelle. Ça peut être plusieurs étincelles. Par exemple, je peux avoir une étincelle de la partie 343 000 de la 201e mille neshama. Je peux avoir une étincelle de là-bas et je peux avoir des fois même 100 étincelles, 20 étincelles, une qui vient de là, une qui vient de là, une qui vient de là. Vous n'allez pas dormir la nuit.
C'est sûr.
Vous imaginez ce que je viens de dire? Et attendez, j'ai pas fini. C'est ce qui explique, dit Dieu la Harizal, c'est ce qui explique le niveau de l'échama. C'est ce qui explique les affinités naturelles qu'on a avec certaines personnes.
Oui.
C'est-à-dire, des fois, par exemple, tu vas avec quelqu'un, tu commences à parler avec lui. On va dire que c'est un homme, on va pas compliquer les choses. Et tu parles avec lui, tu sens que tout de suite, ça clique.
Il attend de crochu.
Et un autre, tu sens que, pourtant, c'est un type bien, il a rien, mais tu sens que bon, ça coque pas. C'est pas la même chose. C'est en rapport avec ça. Si on appartient à la même neshama, si on a au moins une étincelle commune, ça clique.
Parce qu'il y a des connexions.
Si on a en plus deux étincelles à la même neshama, là, c'est bingo. Trois étincelles, là, c'est tout de suite. On se regarde, on a compris. Et comme ça, etc. C'est comme ça que ça avance.
Ah, pourquoi je composé combien d'étincelles?
C'est le nombre est infini.
On les connaît pas.
Donc là, maintenant, il faudra rajouter le nombre des combinaisons possibles. Là, je le renfonce encore. Parce qu'il faut compter le nombre de combinaisons possibles parce qu'on prend plus d'étincelles.
C'est 600 000.
Il n'y a pas de chiffre, tu ne peux pas avoir de chiffre, oublie.
Non, mais ça, il faut un gros ordinateur pour calculer ça.
Parce qu'il faut avoir maintenant le nombre de combinaisons possibles.
Il faut, au moins là, il faut
et le nombre de combinaisons est variable. On peut prendre 10 étincelles, 50 étincelles, 1000 étincelles, 600 000 étincelles. On peut prendre.
Le problème dans ces étincelles.
Maintenant, attendez, je n'ai pas fini. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va diriger chaque neshama, à l'endroit qui correspond à sa mission. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que vous habitez dans un endroit, dans une rue, dans une ville. Ok, vous habitez là. Si vous habitez là probablement aujourd'hui, si vous habitez là, c'est que probablement la génération d'avant, ou deux générations avant, ou 10 générations avant, ou 20 générations avant, il y avait quelqu'un, un juif qui habitait dans la même rue que vous, et que ce juif il a une parcelle de Neshama qui appartient à la même Neshama que vous, c'est-à-dire dans une de vos parcelles, de vos étincelles, il y en a une qui appartient là-bas, et que vous êtes en train de réparer quelque chose que lui il n'a pas fait. peut-être c'était quelqu'un de votre famille, peut-être c'est pas quelqu'un de votre famille, on n'en sait rien du tout. Mais ça veut dire ce qu'il veut te montrer là de Morazaka, il te dit, il faut arrêter de voir petit. Nous on est là, métro, boulot, dodo, j'ai fait mon petit boulot, etc., je crois que j'ai changé le monde. Et tu lui dis, sache que chaque petite chose que tu fais, ça influe sur le monde entier, et sans te rendre compte, tu es en train de changer le monde, et tu as une mission. Ah, je vois pas la mission. Ta question? Ça change pas?
Non, c'est pas que je vois, je l'entends
pas. Je la vois pas, je l'entends pas, je la vois pas. C'est moi pour moi ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait ma prière, je suis parti au travail, j'ai vu aucune mission, moi. J'ai rien vu.
Oui, c'est vrai, mais enfin.
J'ai rien vu, moi, je suis parti au boulot.
Et en plus, on peut pas identifier toutes ces étincelles.
Eh ben, puisque vous pouvez pas identifier, mais Akadosh Baruch Hu, il vous dirige vers l'endroit où vous devez arriver.
Non, mais pour que je fasse moi le travail aussi, si je peux les identifier.
Monsieur Benita, ça fait combien de temps que vous habitez dans le 13e? Combien d'années?
Ah, hein? Pas encore chinois.
80, l'année 80.
D'accord. Avant d'habiter en 13e, vous habitez où?
16.
Hein? Connu, pourquoi hein? Vous avez déménagé de Sarcelles au 13e?
Eh bien, parce que j'avais mon travail à Paris, et puis il fallait me rapprocher.
Ah, mais Dieu, il aurait pu vous envoyer votre travail à Sarcelles.
Non, mais ça ne marchait pas là-bas.
Ben oui, mais il aurait pu faire que ça marche.
Non, parce que dans ma réflexion, c'était pas comme ça. C'était, il fallait que je.
En plus, ça rappelle une histoire. Une fois, il y a quelqu'un qui a demandé. J'ai une lettre magnifique du rabbi précédent. Une fois, il y a un juif qui a demandé au rabbi précédent. Il a dit voilà, j'ai une question à vous poser. J'ai pas trouvé de parnassa. Je trouvais la parnassa que dans une ville dans laquelle il n'y a pas minyan. Et je vous demande la question. Je vous demande une question. Comment je fais par rapport au minyan? Voilà, est-ce que j'ai pas minyan? Alors je vous demande une bracha. Comment je fais par rapport au minyan? Bon, voilà, je ne crois pas le minyan. Alors le rabbi précédent, écoutez cette réponse, moi, c'était un crin de proche. Hein. Il lui dit, pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi tu ne poses pas une autre question? Le même Dieu qui t'a envoyé la Parnassa à 100 km de chez toi, il aurait pu t'envoyer en bas de chez toi. C'est ça ce que tu dois me demander. Tu dois me demander, Rabbi, donnez-moi une bracha que ma Parnassa soit à côté de chez moi.
C'est UPS, quoi.
Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la force.
Oui, ouais, enfin,
après, bon, on est en galoute, hein, on n'en peut
non,
pas.
Non, non, enfin, ça dépend de quel business, etc. Bon.
Il faut
non, mais si, main, mais si, c'est lié ici.
Tous les business peuvent marcher partout, ça dépend de ce que Dieu veut, où Dieu veut que ça marche. Donc, Kacher Nekayem. Maintenant, j'ai pas fini. Maintenant, je vais vous embêter un peu plus. Chaque Neshama doit accomplir. Vous me suivez? Chaque Neshama doit accomplir toutes les 613 mitzvot.
Ouais.
Maintenant, il est possible que ma Neshama, elle a accompli 611 mitzvot dans les 2000 ans d'histoire qu'elle a eue, mais il lui en manque deux.
Il revient.
Donc Dieu va tout faire en sorte qu'on va redescendre sur Terre, et que sur Terre, il va me faire tourner autour de ces deux mitzvot. Après, où je prends, où je prends pas. C'est la pêche. Où je prends, où je prends pas. Mais il va t'arranger pour que tu tournes autour de ça. Ça va être ton challenge. Il te dit clairement, il te dit « Kacher tekayem » On va prendre les mots. « Kol taryag » Donc là, je suis à la page 145. « Kol taryag mitzvot à Torah » Chaque Neshama doit accomplir, au cours de son parcours, qui peut durer des millénaires, toutes les 613 mitzvot de la Torah. « Shin samechel le ta'aseh »« La frit shin samechel gidim shel damachim nefesh bagouf » Donc, il y a 613 mitzvot. Il y a 365 mitzvot qui vont nous permettre de séparer la vitalité négative et 248 mitzvot qui vont nous permettre au contraire de générer une énergie positive. Justement, je vais vous raconter une histoire à ce propos. Ça veut dire qu'en fait, avec ce qu'on va expliquer ici, on va faire appel à une idée du Zohar qui dit que chaque mitzvah correspond à une partie de notre corps. Je vais illustrer ça par une histoire. On raconte qu'une fois, le Baal Shem Tov arrive dans un endroit dans lequel il y avait un juif qui était très malade. Un malade en fin de vie. D'accord? Soins palliatifs. Le docteur dit que c'est terminé. Baal Shem Tov, il est rentré chez ce malade et il a dit il faut lui donner de la soupe. Il faut lui donner de la soupe.
La soupe, ah oui.
Soupe. Okay. Et si on va lui donner de la soupe, il va guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, bien sûr, le docteur. Bon,
Donnez-moi la
soupe,
recette.
La soupe. On n'a fait pas. C'est quoi cette soupe? C'est quoi cette histoire? Alors le docteur a vu que la personne a guéri. Donc il a compris qu'il y a un problème. Donc il est parti voir le Baal Shem Tov, il a dit, écoutez Rabbi, si j'ai dit que cette personne allait mourir, c'est pas juste un pronostic que j'ai lancé comme ça. Parce que j'ai vu que tel membre interne dans le corps de cet homme était pratiquement terminé. Et que sans ce membre, c'est un membre vital, on peut pas vivre sans ça, c'est un organe vital, on peut pas vivre sans ça. Alors le Baal Shem Tov lui a répondu comme ça, sa réponse magnifique. Il lui a dit, vous, en tant que docteur, vous cherchez à guérir le membre qui est dans le corps. Et là, effectivement, le membre qui est dans le corps, il était cuit. Mais il dit, vous devez comprendre que le Zohar explique que correspondant à chaque membre qu'il y a dans le corps, il y a un membre dans la Neshama. Et chaque membre dans la Neshama correspond à une mitzvah spécifique. 613 mitzvot, ça correspond aux 348 vaisseaux qu'on a dans le corps et 248 membres. Donc, dit le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Quand une personne faute dans une mitzvah, le membre correspondant à cette mitzvah, parce que, encore une fois, il y a une mitzvah qui correspond à un membre. Donc, le membre correspondant à cette mitzvah devient malade.
Il devient invalide.
Il devient malade. Je n'ai pas dit qu'il devient invalide. Il devient malade. Donc, dit le Baal Shem Tov, si la personne ne répare pas ce problème, s'il ne répare pas ce défaut, qu'est-ce qui se passe? Alors, malheureusement, physiquement, ça continue à s'abîmer, et après, Chas Vechalom, il n'y a plus rien. Le Baal Shem Tov, il a dit, attendez, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Il dit, quand je suis venu, j'ai parlé avec la Neshama, c'est Baal Shem Tov, hein. J'ai parlé avec la Neshama du malade. J'ai parlé avec, même pas avec le corps, il n'a même pas parlé au malade. Je ne sais pas si vous voyez la situation, il n'a même pas parlé au malade. Il a parlé à la Neshama du malade. Et j'ai fait un deal avec elle qu'elle va réparer le problème. Elle m'a dit, d'accord, elle va réparer le problème. Dès qu'elle a réparé le problème, automatiquement, le problème a été réglé. Il y a un problème de la soupe. Il dit, la soupe, c'est juste pour... pour habiller. Pour habiller le miracle.
Vous brouillez les cartes.
C'est vrai, c'est ça. Ça, on a vu de nombreuses... Je reviens chez le rabbi. On a vu de nombreuses fois, quand il fait des histoires, on a vu avec le rabbi, que souvent, les gens qui étaient malades, qui avaient des problèmes, ils écrivaient au rabbi. Qu'est-ce que le rabbi répondait? La réponse classique du rabbi, c'est quoi? Vérifier les tefillines et les mezuzot. J'en disais, mais quel rapport? Quel rapport à Tfilin Mizot? Quand on vérifie Tfilin Mizot, quel rapport? Le bonhomme vient, il a un problème dans le cœur, il a un problème dans le signe, un problème dans ça, tu dis vérifie Tfilin Mizot. Et le rabbi l'expliquait qu'en vérité, correspondant à chaque mitzvah, il y a des choses qui vont dans le corps. Et j'ai même un livre à la maison qui s'appelle Otsar Segulot Arabi. C'est-à-dire ils ont recensé de toutes les lettres du rabbi, différentes réponses. Par exemple, vous savez qu'une Segula pour les yeux, une Segula pour les gens qui ont des problèmes aux yeux, c'est. De boire le vin du kiddush de l'Avdala, et même si on ne boit pas, de prendre un peu du vin du kiddush de l'Avdala et de le mettre sur les yeux.
Ah, ils connaissent tous ça. Hein.
Non, oui. De le mettre sur les yeux.
Sur les yeux.
Pas sur le... Il y en a qui le mettent dans les poches, pour la parnassa. Les yeux. Hein. Aussi, en plus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, chaque membre du corps a quelque chose qui correspond. L'Avdala, c'est une mitzvah qui parle à l'œil. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi.
Et la soupe, ça paraît qui?
On a plein d'exemples comme ça.
La soupe demain, c'est
ça. Non, je ne parle pas de ça. Évidemment, on ne parle pas de ça. On n'a pas réponse à tout.
Ça
ne vient pas d'eux. Là, dans ce cas, ça venait de lui. Combien de fois on a aussi, par exemple, des gens qui venaient demander au rabbi des brachot pour les enfants? Vous n'avez pas des enfants? Et des fois, les gens prennent des moyens de contraception pour ne pas avoir d'enfants. Et après, dès qu'ils veulent, il n'y a pas. C'est pas à la carte. C'est à Kadosh Baruch Hu qui envoie. Alors ils demandent d'abord au rabbi aux enfants pour avoir des enfants. Les enfants ne viennent pas. Comment on fait? Et pratiquement à chaque fois, le rabbi répondait qu'une ségoula pour avoir des enfants encore plus cachères, en bonne santé, c'est de faire attention, d'être scrupuleux dans les lois de la pureté familiale. C'est-à-dire quel rapport? Puisqu'on est plus scrupuleux de la pureté familiale, on va avoir des enfants, quel rapport? Il n'y a pas de relation de cause à effet. Tu dis oui, une relation de cause à effet. Parce qu'il y a le membre matériel, il y a le membre spirituel. Le membre matériel, c'est le membre avec lequel un homme aura de relation avec sa femme. Et c'est le fait que la femme peut être fertile ou pas fertile, et que l'homme peut être fertile ou pas fertile. Et le membre spirituel, c'est quoi? C'est le fait qu'on fait attention à la mitzvah de la pureté familiale, etc. Ou bien, par exemple, il y avait des fois des gens, par exemple, qui demandaient au rabbi une bracha pour la parnassa. On a deux choses pour la parnassa. Je donne des choses que le rabbi disait. Après, il y avait des fois des réponses spécifiques, mais en général, c'était les grandes réponses qui revenaient. Pour la parnassa, il y a deux grandes ségoulottes. Il y a faire attention à donner la tzedaka comme il faut, le maaser, et de pas être radin dans le maaser, d'arrondir. Et deuxièmement, le Shabbat. Le Shabbat, bon, vous savez, le Shabbat, on peut toujours trouver des permissions. Des associations, des trucs, des permissions, on peut trouver. Mais si on veut la bracha d'Akadosh Baruch Hu, absolue, il faut faire le Shabbat, comme il faut. Parce que le Shabbat, c'est écrit, tu fais le Shabbat, je m'occupe de toi. C'est les choses, c'est le mekor, c'est la source de la bracha. Alors voilà, est-ce que c'est des gens qu'on peut expliquer relation de cause à effet directement? Je sais pas. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile, etc. Mais j'ai même vu des lettres du rabbi, des gens qui adressaient au rabbi, ils avaient des problèmes de santé, des problèmes de digestion, des problèmes, etc. Et le rabbi répondait, kashrut achila ushtia. Il faut se renforcer dans la kashrut de la nourriture et de la boisson. J'ai vu des cas comme ça que les gens ils m'ont raconté, hein, des gars véridiques que je vous raconte. C'est-à-dire qu'ils ont reçu cette réponse, ils ont commencé à faire attention à la cache-route, maigri. J'ai vu une fois une personne comme ça, un juif à New York, était très très malade. Très malade. Des gens très très riches. Les Iraniens, très 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 riches. Les Iraniens, vous savez, c'est.
Toujours.
C'est. Ah,
c'est des marchands de
tapis. Ah non, mais c'est pas. Ouais,
c'est la bombe.
C'est. Et une fois, comme il y avait comme ça, il y avait une grande famille, une grande fratrie aux États-Unis, et il y en avait un qui était malade. Un qui était malade. Donc ils ont essayé d'amener les meilleurs docteurs, je crois qu'il devait avoir 30 ans. Les docteurs ont dit il n'y a plus rien à faire. Tout ce que la médecine pouvait faire, en fait, il n'y a plus rien à faire. Alors ils sont partis voir des rabbins, etc. Ça n'avançait pas. Quand il leur a dit, écoutez, leur communauté, leur a dit, écoutez, allez voir le rabbi de Lubavitch, on dit des choses sur le rabbi de Lubavitch, on dit que c'est quand même un grand sadique. Ils sont partis le voir. Directement, le grand frère, il est venu, il a déposé un chèque. L'équivalent d'$1 million aujourd'hui. L'équivalent. Déposer un chèque. Le rabbi dit, gardez votre chèque. Il dit, vous voulez guérir? Il faut commencer à faire Shabbat. Il faut mettre les tefilines et il faut respecter. Il faut. Non, il a dit Shabbat, mettre les tefilines et respecter la cache-route. L'autre, il était là, il dit mais je peux pas. Il a dit tous les frères, vous devez tous commencer à faire Shabbat. Parce que c'était une affaire qui tournait Shabbat. C'est, en plus, le Shabbat, c'était le meilleur jour. C'est les,
bah oui.
C'était, ils ont dit on peut pas. Le rabbi dit que. Il a augmenté. Il a augmenté la mise. Il dit, Rabbi, je vous paye tous les bêtes rabats du monde pour un jour. Rabbi, non. Un mois. Un an. Il a dit, je paye tous les bêtes rabats du monde pour un an. Rabbi dit, gardez votre argent. Je ne veux pas de votre chèque. C'est une vraie histoire. Hein. J'ai le nom à la maison. Il a dit, je paye tous les bêtes rabats du monde, le frais de fonctionnement de tous les bêtes rabats du monde pendant un an. Rabbi dit, monsieur, je ne veux pas votre argent. Si vous faites Shabbat, ça va marcher. Tefilin, ça va marcher. Cache-route, ça va marcher. La suite de, je vais vous dire la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que les frères, ils ont compris qu'ils étaient dans le mur, donc ils ont accepté. Et le frère, il a guéri. Bah, au Hachem, mais c'est pas fini. Au bout d'un an, bah, quand le frère, il a guéri, il était en bonne santé, ils ont dit, bon, bah, ils ont arrêté. Et il est retombé. Et ils ont pas voulu reprendre, et le frère, il est mort.
Ah ouais?
Oui.
Ah ouais. C'est un challenge quand même extraordinaire, ça.
Et ça a duré une histoire qui a duré 3 ans. Et les frères sont venus voir le rabbi. Ils ont dit, mais, le rabbi, il dit, mais, je vous ai dit. Le rabbi dit, mais je vous ai dit. Je vous ai dit la technique. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont eu le sroud que quand même que le rabbi leur donne. C'est rare quand même, hein. Qu'il lui donne directement. Il dit, tu fais ça, t'auras ça. Et plein comme ça. Parce que il faut comprendre qu'il y a une corrélation parfaite entre les mitzvot et notre corps. Alors, est-ce qu'on arrive à le voir tout le temps ou pas? Je sais pas. Mais il faut comprendre ça. Toutes ces mitzvot, il y a un rapport direct.
Mais alors ça veut dire aussi que tous ceux qui font les mitzvot, ils ne doivent jamais tomber malades.
Non, j'ai pas dit ça.
Si, d'après ce que vous dites.
Non.
Ça.
Il faut déjà faire toutes les mitzvot.
En filigrane, on doit.
Monsieur Benita, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un membre peut être malade physiquement. Soit parce qu'il est malade physiquement, il n'y a rien à faire. Soit parce que le défaut spirituel a rendu le membre malade, matériellement, alors qu'il n'était pas malade. Je vous donne un exemple. Regardez, vous voyez ma main? D'accord? Ma main, elle bouge. Maintenant, prenez la main d'une personne qui est morte, tu préserves. Sa main ne bouge pas. Pourquoi elle bouge pas? Elle est là, la main. Elle est toujours là. Pourquoi elle bouge pas, sa main? Parce qu'il n'a pas l'âme qui bouge. Il y a une corrélation entre, il y a un corps, il y a une âme qui fait bouger cette main. Pourquoi avant elle bougeait, maintenant elle bouge plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'œil? Il est toujours là, l'œil. Avant il voyait, maintenant il voit plus. Qu'est-ce qui a changé? Il y a une âme. Et cette âme, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Cette âme, c'est la neshama de l'objet. La neshama du membre. Et ça, c'est lié directement au mitzvot. Ça, on a eu un strout dans notre génération que le rabbi nous a montré clairement. Comment il y a des ségoulottes extraordinaires. Voilà, commencer par les tefilines, les mezouzot, faire attention à comment je cachère, la pureté familiale, le shabbat, d'accord, l'éducation. L'éducation, ça, on n'a pas idée aussi, l'éducation. Il y a eu plein de gens comme ça qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et le rabbi leur a dit, et ça a marché pour plusieurs, hein, le rabbi leur a dit, pour avoir des enfants, pour vous, c'est bloqué en haut. C'est bloqué, il y a pas, c'est bloqué en haut. Les enfants sont bloqués pour vous. Si vous voulez que ça se débloque, il faut que vous financiez l'école pour un enfant. L'école pour un enfant juif. Et comme halakhiquement on dit que quand on finance l'école pour un enfant juif, c'est comme si c'était notre enfant, comme si on l'éduque comme notre enfant. Il a dit automatiquement dans le ciel, on va dire celui-là, il a déjà un enfant, alors on va lui donner un deuxième. Et je connais des gens qui s'est passé comme ça. Mamache, ils ont financé un enfant. Après, je peux pas dire qu'on a les réponses à toutes les questions, mais mamache, c'est-à-dire ça c'est pour nous montrer qu'il y a une corrélation parfaite entre les mitzvot et les membres, et les mitzvot et les membres de notre corps. Alors, bien sûr, d'un autre côté, j'ai vu récemment, une fois, une personne qui s'est fait cambrioler plusieurs fois. Non. Et il a écrit une lettre au rabbi. Les armes, il propose. Tu vois, il dit, rabbi, est-ce que vous pensez que j'aurais vérifié mes mitzvot? Le rabbi dit, peut-être il faudrait fermer les fenêtres la nuit.
plus simple.
C'est plus sûr.
Ça veut dire, vous comprenez ce que je veux dire?
7 milliards de combinaisons.
Voilà, ça veut dire, je dis pas non plus qu'on devient bête, qu'on arrête de réfléchir, qu'on dit bon, on fait que les mitzvot et qu'on arrête de réfléchir, on fait pas les choses avec le sechel. Il faut utiliser le sechel. Il faut comprendre qu'on a un srout extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot et que ces mitzvot ont un impact direct sur notre santé. Un impact direct sur notre façon de faire les choses. Un impact direct sur... D'ailleurs, le rabbi dit comme ça. Le rabbi dit que quand on fait pas les choses comme la Torah elle veut, ça amène les nerfs. Ça amène les nerfs dans la maison, dans la personne. Parce qu'il donne un exemple. Regardez, il donne un exemple très très beau. Vous avez déjà été dans un zoo. Bon, regardez le zoo. Qu'est-ce que vous voyez dans un zoo? Dans un zoo, vous voyez par exemple, on vous a fait une très grande cage, haute de 15 mètres, sur je sais pas combien, dans laquelle on met un oiseau. Maintenant, l'oiseau, il a tout ce qu'il veut. Il a... Une personne qui est là, je ne sais pas comment on appelle ceux qui travaillent dans le zoo, un soigneur qui est là, qui lui donne à cet animal tout ce qu'il a besoin. Prenez le lion par exemple. Il est là, il y en a même plusieurs, il lui donne tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il veut dormir. Il dort quand il veut, il mange quand il veut, il boit quand il veut. Et pourtant, quand vous regardez dans les yeux, il est triste. Quand il est dans la forêt, il doit se battre pour aller manger. Et là, maintenant, ici, il a tout ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que tu veux? Dehors, tu te battes pour avoir. Ici, tu te bats pas. Alors, pourquoi t'es pas heureux? Qu'est-ce te manque? Le rabbi dit comme ça. Il dit, parce que quand tu pousses quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas dans son élément, qui n'est pas dans sa nature de faire des choses, il peut pas être heureux. Ça, c'est l'enseignement. Tu prends le lion. Sa nature, c'est de vadrouiller. Sa nature, c'est d'être là, dans la forêt, etc. C'est sa nature. Même si c'est dur, parce qu'il doit chercher, c'est sa nature. Dès que tu le mets en dehors de sa nature, il souffre. Le rabbi dit, c'est la même chose. Ça, c'est une réponse que le rabbi donne à une personne qui a dit, pourquoi je dois me marier avec une juive? Moi, je suis plus heureux avec une non-juive. Le rabbi lui répond, il dit, vous ne pouvez pas être heureux avec une non-juive. C'est pas possible.
Impossible.
C'est pas possible. Il dit, et c'est même pas une question c'est même pas une question qu'elle va vous rendre la vie amère, etc. Peut-être c'est une fille bien. Ben, c'est une fille bien. C'est possible qu'il y ait une fille très très bien. Qui va être moins embêtante que les juives. Et ce que dit les gens, ils disent que des fois les juives, elles sont compliquées. Peut-être. Mais il dit, vous ne pourrez pas être heureux avec elle. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas dans votre élément. Vous n'êtes pas dans vos éléments. C'est ce qu'il te dit ici. C'est-à-dire, quand tu fais les choses comme la Torah elle veut, comme Akadosh Baruch Hu veut, un goy, il n'a pas besoin de ça. Un goy, il a 7 lois noachides. Un goy, pour être dans son élément, il faut qu'il fasse les 7 lois noachides. Dès qu'il fait les 7 lois noachides, ça lui amène la sérénité, le calme, le shalom. Un juif, pour avoir la sérénité, le calme, le shalom, et je parle pas de la galerie, du fait qu'il donne l'impression qu'il est heureux. Je parle d'une sérénité intérieure profonde. Il doit faire les mitzvot. Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot ne peut pas être heureux. Il peut pas être dans son élément. Comme il est pas dans son élément, automatiquement, profondément, il est malheureux. C'est la réalité, ce que je vous dis. Après, voilà, chacun peut avoir une façade, il peut dire, non, mais je suis très heureux, j'ai pas de problème, je manque de rien. Ok, tu peux dire ce que tu veux. Au fond de lui, il est pas dans son élément. Voilà ce qu'il dit ici, l'admorazaken. Alors, on continue. Donc, il dit, on va tourner la page. Ça, c'est le but des mitzvot qu'on fait. Quand on fait une mitzvah positive, quand on fait une mitzvah négative, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on change notre corps. Et moi, je connais plein d'exemples comme ça de juifs qui ont été sauvés avec des brachot du rabbi ici en France. Des brachot extraordinaires. Il y en a un, par exemple, il m'a raconté, il m'a dit, une fois, il est parti voir le rabbi. Il ne faisait pas Shabbat, il ne faisait rien, il était marié, il était fiancé avec une Goya. Bon, voilà, il était loin. Il est venu voir le rabbi. Et le rabbi, il a dit, toi, tu dois faire Shabbat. Comme ça, il l'a dit. Il a dit, comme ça, même pas en français direct, c'est-à-dire le bonhomme il se présente, même pas il a le temps de parler. Alors il dit, toi, tu dois faire Shabbat.
Quand je suis venu,
ouais. Il a raconté, il est resté bête. Quand on voit les vidéos devant le rabbi, bon, quand on voit les vidéos, il vous montre pas tout. Quand on voit les vidéos, il y avait des fois des gens qui s'évanouissaient. J'ai vu de mes yeux ça. Des gens, ils s'évanouissent. Il arrive devant le rabbi, hein, ils vont pas te les mettre. C'est normal. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Vous savez que devant, lorsque le rabbi distribuait le dollar, il y avait constamment 3 ambulances devant.
Ah bon?
Mais ma parole. Demandez à la partie qui était à New York. Tout le temps, 3 ambulances qui tournaient. Et les gens, ils étaient là et à un moment, ah, ça là! Mais bien sûr! Tu arrives devant le rabbi, il te sort un truc, t'es même pas besoin de parler, il te raconte ta vie, il te dit, toi, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais d'où il sort?
Il a une attaque directe.
Il sort. Alors, il y a des fois où le rabbi il voulait le faire, des fois il voulait pas le faire. Bon, après, il y a des gens qui ont plus besoin, des gens qui ont moins besoin. Ok, c'est une autre question. Mais ça veut dire qu'on voit ici clairement qu'il y a une corrélation directe entre le corps d'un juif et entre l'âme d'un juif. Et ça, c'est une chance extraordinaire qu'on a dans notre génération. Je reviens chez le rabbi, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est une chance extraordinaire qu'on a dans notre génération que le rabbi, il a fait un rapport. Vous savez, avant, il a fait un rapport entre l'aspect mitzvah et l'aspect concret. Avant, quand on disait aux gens que la mezouza, ça protégeait la maison, comment les gens comprenaient ça?
C'est un grégé.
Bon, c'est une mitzvah. Il faut mettre la mezouza, on met la mezouza. D'accord? Le rabbi, il a voulu nous montrer... Le rabbi, il a voulu nous montrer que non. Le rabbi, il a voulu nous montrer que pas du tout. Que la mezouza et les tefillines, ça a un impact concret. Moi, je vous raconte une histoire qui s'est passée avec un copain à moi. De mes yeux, j'ai vu ça. C'est un copain, il a fait vérifier ses tefillines. Alors ça, bon, c'est comme ça, c'est une échamaille. Hein. Chaque année, il a fait vérifier ses tefillines. Chaque année. Chaque année, il a fait vérifier ses tefillines, et chaque fois, ses tefillines étaient cachères. Maintenant, une année, c'était il y a 3 ans, il a eu un grave accident de moto. Très bon ami. Il a eu un grave accident de moto. Bon. Pas compris, c'est bizarre et tout. Il a demandé au Rav. Le Rav, il a dit, écoute, je crois que c'est le Rav Azimov. Il lui a dit, il faut que tu fasses vérifier les tefillines. Il a fait vérifier les tefillines. Le mot ouvre l'ertecha baderer, baderer dans le chemin, il n'était pas là. Non, c'est incompréhensible parce qu'il a fait vérifier
les tefillines. Comment il a disparu d'une année sur l'autre?
Ça, j'en sais rien. Je sais pas,
un mot, il disparaît entier.
Un mot entier, le mot, il n'était pas là. Mais je l'ai vu, il m'a montré. Hein. Ça, il m'a montré la photo dans son téléphone, il m'a montré, il a dit, regarde. Voilà. Le mot, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le sofer l'a mis une mauvaise paracha à l'intérieur? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que le mot il s'est envolé? Je sais pas. Ça, ça nous montre clairement. Et voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On voit clairement qu'il y a un rapport. Il y a aussi une autre. C'est aussi un chidouche du rabbi. Il dit, je vais raconter d'abord l'histoire. Il y a une histoire qui est racontée dans la Gemara. Peut-être vous connaissez cette histoire, mais c'est une histoire qui est très difficile à comprendre. Elle a l'air simple, mais elle est très difficile. C'est l'histoire d'Onkelos. Vous connaissez l'histoire d'Onkelos?
Ouais. C'est Onkelos? C'est l'équivalent de Rashi. Quoi.
Alors, c'est quoi Onkelos? Qui était Onkelos?
Riche.
Hein? D'où il vient?
C'est un converti.
D'accord. D'où il vient?
De Rome.
C'était le neveu de Titus. D'accord, maintenant, écoutez l'histoire. Parce que l'histoire... Hein?
Ah oui, il avait refusé de...
Alors, je vais vous commenter l'histoire, parce qu'elle est magnifique. Donc Onkelos, c'est le neveu de Titus. D'accord? Onkelos, c'est le neveu de Titus. Et Titus, d'accord? Une fois Onkelos, jeune homme, il avait un peu d'argent à investir. Et il a posé la question à son grand-oncle. Il a posé la question, il a dit, dans quoi tu me conseilles d'investir? Oh, c'est une bonne question. Dans quoi tu me conseilles d'investir? Alors son grand-oncle lui a dit, je te conseille d'investir dans quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais qui va prospérer avec le temps. Ah, c'est ça, le bon investissement, c'est que tu investis dans quelque chose qui maintenant en vaut rien, mais que toi tu penses ça va valoir, du coup tu en achètes beaucoup, et quand ça va valoir, voilà. Très bien. Il dit, t'as une idée de quelque chose? Il dit, non, ça j'ai pas d'idée, mais tu vas tourner dans le monde, cherche des choses, des idées comme ça que ici on connaît pas, et tu les prends, si tu en prends beaucoup, et avec le temps tu vas développer. Très bien. Entre temps, Onkelos il tourne dans le monde, et il finit par se convertir au judaïsme. Il finit par se convertir au judaïsme, à Jérusalem. Alors, Titus, il est étonné qu'il n'a pas de nouvelles de son petit-neveu. Donc, il fait des enquêtes, etc. Bon, il a les moyens de faire les enquêtes.
Il envoie les gardes, ouais.
Et il découvre, ça donne, il découvre que son petit-neveu est à Jérusalem, il s'est converti. Bah, évidemment, c'est un scandale. Lui qui a toujours déclaré la guerre aux juifs, son propre neveu, va se convertir au judaïsme, c'était un scandale pour lui. Alors, il envoie une équipe pour aller le chercher. Il envoie une équipe de gardes pour aller chercher Onkelos pour le ramener. D'abord, on le ramène, après, on part. Comme ça à l'époque. D'accord? C'est déjà pas mal qu'il l'a pas tué, parce que normalement, il aurait dû le tuer. Mais comme c'est le petit neveu, donc il le tue pas, il va le ramener. Les gardes ne reviennent pas. Les gardes ne reviennent pas. Ça veut dire qu'ils sont rentrés à la maison, il les a. Bon. Alors, le Titus voit que les gars ne reviennent pas, il a compris que bon, d'accord. Il a renvoyé une deuxième équipe, qui n'est toujours pas revenue. Alors, il a renvoyé une troisième équipe, des gens vraiment fidèles de chez fidèles.
Ils sont tous convertis?
Oui. Et il leur a dit la chose suivante, il leur a dit, vous ne rentrez pas chez lui. Vous ne parlez pas avec lui. Vous attendez qu'il sorte, dès qu'il sort, vous l'attrapez, vous l'enchaînez. Ne lui parlez pas, il est dangereux. Ils vont l'attraper là, c'est fini. Et c'est ce qu'il fait. Ils attendent devant la maison, gentiment. Et Onkelos, il sort comme tous les matins pour aller à la chou, je sais pas, ou pour aller prier, pour aller étudier. Il sort, et là, à peine il sort, tout de suite, il est l'enchaîné. Attendez, pose la main sur la mezouza. Alors là, il y a le chef de garde, il dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est quoi ce... Qu'est-ce que vous faites? Il a craqué, il n'a pas compris, c'est quoi ça? Et il dit, bah, vous voulez que je vous explique? Voilà, je vous expliquer la différence qu'il y a entre votre Titus et notre Dieu. Vous voyez, votre Titus, lui, il reste dans son palais et il vous envoie, vous. Comme, pourquoi il vous envoie? Pourquoi lui, il ne va pas dans le champ de bataille? Parce que il veut que si dans le champ de bataille, on va tomber, c'est pas le chef qui va tomber, c'est d'abord les soldats qui vont tomber. Et comme ça, même si les soldats y tombent, il y a toujours les chefs qui sont derrière. C'est comme ça qu'on fait un champ de bataille. Enfin, pas en Israël, mais c'est comme ça. D'accord? Il dit, maintenant, notre Dieu, il est différent. Notre Dieu, il nous demande de le mettre dehors. Et c'est lui qui protège la maison. Ça veut dire qu'il est sûr de son coup. Ah, ils ont entendu ça.
Converti.
Alors, le rabbi pose une question, il dit, mais bon, après, voilà, le sud de l'histoire, c'est que Titus, finalement, il a fini par envoyer une missive à Archélos. Il a dit, écoute, je veux te voir. Viens toi-même, je te promets, je te ferai aucun mal, je veux comprendre. Bon, il n'a pas réussi à faire convertir Titus, mais Titus, je lui ai dit, explique-moi ce qui s'est passé. Mais il a dit, je t'ai expliqué, c'est pas compliqué. Tu m'as dit d'investir dans une marchandise qui est peu demandée et qui est bon marché, mais qui va valoir très cher. J'ai trouvé les Juifs. Alors attendez, maintenant sur ça, le rabbi pose une question. Ah oui, les Juifs, c'est bon marché, mais vous êtes attaché. Maintenant, sur ça, le rabbi pose une question. Là, vous allez avoir le rapport avec le cours. Rabbi pose une question. Il dit, mais les gardes que Titus a envoyés, ce n'est pas des imbéciles. Le troisième centurion. Titus a dû envoyer des gens. Je veux dire, c'est pas juste des gros bras. C'est des gens, c'est la troisième fois. Top du top. C'est des hommes d'élite. Des soldats d'élite. Tu crois que soldats d'élite, tu vas les attraper avec ton histoire d'attraper les prisonniers. C'est un parchemin, Mizouza. Comment les attraper? Ça, le rabbi l'expliquait la chose suivante. Écoutez, mes chidouches. Il a dit le chidouche ici, la chose suivante. C'est qu'en fait, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, une personne a un problème dans la maison? Et il va faire vérifier les mezouzotes. Et on trouve un problème dans les mezouzotes. Bon. Est-ce que ça veut dire que le problème a toujours été là? Non, par exemple, une lettre qui s'est effacée, etc.
Pas forcément, non.
Alors écoutez ce chidouche du rabbi. Tridouche extraordinaire. Il dit, en vérité, la mezouza à la base, probablement qu'elle était cachère. Mais dans la Gemara, la mezouza est comparée à un bouclier. Un casque. Bouclier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un bouclier? Imaginez que vous avez un bouclier et que quelqu'un va tirer une balle dessus. C'est quoi le rôle du bouclier? C'est d'arrêter la balle. Maintenant, une fois qu'il a arrêté la balle, le bouclier, il s'est fragilisé. Donc il est plus en étape, peut-être qu'il est plus en état d'arrêter une deuxième balle, parce qu'il a déjà été fragilisé. Son rôle, c'était d'arrêter la balle une fois. Une fois qu'il a arrêté une fois, peut-être qu'il peut arrêter une fois, deux fois, trois fois, mais après un moment, il est fragilisé. Ben, il dit, c'est exactement la même chose avec la mezouza. C'est physique, ce que je vous dis. Quand il y avait, Rasvei Shalom, un malheur qui devait arriver sur la maison. Je ne sais pas, on n'est pas dans les choses spirituelles. C'est Dieu qui nous a dit, Hashem Ishmor Tetecha Uvoecha. C'est Dieu qui dit qu'il protège la maison avec la mezouza. La mezouza, c'est comme le bouclier. Vous avez un chomat magen, là, d'homme de... Comment ils appellent ça en Israël? D'homme de fer. Qui est là, qui protège? D'accord? Qui pas de barzel, voilà. Il est là, il te protège. Maintenant, il t'a protégé. Il t'a protégé peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois. Mais avec le temps, à force de protéger, il a peut-être été fragilisé. Et là, une fois qu'il est fragilisé, il arrête de protéger. Et c'est là que le problème arrive. Et là, quand tu fais vérifier la mezouza, qu'est-ce que tu trouves? Je trouve qu'elle n'est pas cachère. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais été cachère. Bon, il y a des cas où elle n'a jamais été cachère. Par exemple, il y a un mot qui est un double mot. C'est pas possible. Mais la majorité des cas, c'est pas ça. Parce que je fais vérifier souvent les mezouzotes. La majorité des cas, c'est quoi? Une lettre qui s'est effacée, une lettre qui s'est coupée, une lettre, etc. Ça veut dire que physiquement, à ce moment-là, la mezouza a arrêté de faire office de protection. Et des fois, ça s'explique pas, des fois. Moi, des fois, je vais chez les gens pour faire vérifier les mezouzotes, je les amène. Alors des fois c'est clair, bon, tu vois c'est une chambre humide, etc. Ou bien le milieu dehors, elle va protéger. Des fois il n'y a rien. La mezouza elle est parfaite, elle est bien protégée dans un plastique, dans une chambre qui n'est pas humide, et pourtant, pac, t'as une lettre qui est coupée. J'ai eu plein de fois ça. Hein. Une lettre qui est coupée, tu sais pas pourquoi. Et elle est coupée, elle n'est pas cachère, c'est fini. La lettre est coupée, elle est fendue en deux, donc au point qu'on voit deux lettres, c'est fini, elle n'est plus cachère. C'est ça ce qu'elle veut dire. C'est ça ce qui a marqué. Qu'est-ce qui les a marqués? Qu'est-ce qui a marqué le centurion de ce troisième garde? C'est de montrer que chez nous, c'est pas que comme c'est chez les Grecs, qu'il y a. Il y a le métaphysique et le physique, deux domaines différents. Alors que bon, il y a le spirituel et le matériel, deux domaines différents. Chez nous, le juif, c'est pas comme ça. Chez nous, le juif, la mezouza, c'est notre protection. Ça, on a eu la chance que le rabbi nous a montré ça clairement. On mâche comment toutes les misotes qu'on fait, c'est une ségoula. Et ça, je vais terminer avec ça pour expliquer que c'est exactement ça l'enseignement qu'on a tiré du cours d'aujourd'hui. Donc c'est le troisième palier de notre cours. Premier palier, on a expliqué quand je mange la chips, ça fait lever tous les chips depuis la création du monde. Deuxième palier, du coup, on a expliqué, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que c'est pas seulement la chips, mais c'est tout ce qui va amener à la chips. Ça veut dire la route, la voiture, l'énergie, tout ce qui est autour. Et là, on va aller plus loin aujourd'hui. On te dit, c'est pas seulement ça. C'est une histoire d'âme. On va rentrer dans les âmes maintenant. Qu'en vérité, quand je suis en train de faire cette mitzvah, sans me rendre compte, je suis en train de terminer une mission d'une neshama qui n'a pas terminé. De ma neshama, qui dans un monde intérieur ne l'a pas terminée. Et je suis en train maintenant de la terminer. Et sans me rendre compte, ça a une influence sur mon corps. Ça a une influence sur mon corps, parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y a une influence. Alors il faut savoir que, je vais terminer avec ça, aujourd'hui on est en exil. Et comme on est en exil, pour répondre à ta question, on ne voit pas de corrélation directe entre ce qu'on fait et le résultat. On ne voit pas de corrélation directe. Mais il faut savoir qu'à l'époque, du Beit HaMikdash, on voyait Mamash devant nos yeux. Par exemple, qu'est-ce qu'on lit dans le schéma? Dieu il dit, si tu te comportes comme il faut, si tu vas me craindre, je vais donner la récolte dans ton champ. C'est-à-dire qu'il doit avoir une relation de cause à effet. La Gemara, elle raconte, elle dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, on voyait de nos yeux que le juif qui était religieux avait de la pluie qui tombait dans son champ, celui qui n'était pas religieux, la pluie ne tombait pas dans son champ. Et les gens le voyaient, c'était clair, tout le monde voyait.
Normalement, tout le monde devait être religieux. Tout le monde devait être religieux.
Ah ben non, ils avaient des rabbis quand même. Ah, les rabbis, je n'ai rien à faire, je ne peux pas croire.
Je pense pas.
C'est ce qui se passait.
Comment?
C'est ce qui se passait. Dans les faits. Il y a des gens avec tous les signes, ils ne croient pas. C'est la réalité. Voilà. Mais nous, pour nous montrer, je dis ça pour nous montrer que nous, aujourd'hui, on est en exil. On ne voit pas toujours la corrélation directe, mais quand même, aujourd'hui, comme on s'approche de Mashiach, on commence à voir. Et c'est pour ça qu'il y a des mitzvot comme ça, les campagnes sur lesquelles le rabbi s'est concentré. Comme les tfilines, comme la cacheroute, comme le Shabbat, comme l'éducation, comme la pureté familiale, comme la tzedaka. C'est des mitzvot clés. Ces mitzvot clés sont des mitzvot qui ont une capacité de changer notre vie. Physiquement. Changer physiquement notre vie au point que on a la sérénité, on a la bonne santé, on a la bonne santé, etc. Par exemple, il y avait des fois des gens qui écrivaient au rabbi, ils avaient des fois des angoisses ou des troubles psychologiques, etc. qui sont liés à la tête. Le rabbi dit, faut vérifier les tefillines. En particulier, ou bien il leur disait, faites attention quand vous mettez les tefillines d'avoir la kavana. Parce que des fois on met les tefillines, mais bon, on est ailleurs. Il fait plutôt qu'on mettez les tefillines, de vous rappeler que vous avez les tefillines sur votre tête et de penser que vous avez les tefillines et la kavana. C'est des petites choses. C'est à la limite, il faudrait peut-être qu'on fasse des cours sur ça. Pour donner
des... femme, pas été fini, alors,
c'est que la femme n'a pas besoin. Et d'ailleurs, la femme, c'est par les tefillines de son mari. Parce que le mari, il n'influe pas que sur lui, il influe sur toute sa famille. Sur sa femme qui est sa moitié, et sur ses enfants qui sont sa progéniture, donc qui sont la continuité de lui. Il n'y a rien qui est anodin. Tout ce qui se passe chez mes enfants, c'est lié à moi. Ce qui se passe chez ma femme, c'est lié à moi. Ce qui se passe chez moi, c'est lié à ma femme. Tout est lié. Il n'y a rien qui n'est pas lié. Seulement après, voilà, des fois, on peut regarder. On regarde pas, ok, celui qui veut croire qu'il n'y a rien. Mais du moins, je fais ma vie, ils font leur vie, tant mieux. Ok, ben regarde, fais ce que tu veux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout est lié. Ça, c'est le but du cours d'aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ce qu'on va expliquer, on va expliquer comment faire pour faire du ménage. Comment faire pour faire le ménage en nous et essayer justement de permettre à l'Eshama d'éclairer. Ça, ça mérite un peu.
La chute qui est liée à Adam,
c'est la réalité. C'est encore. Bon.
On sait que c'est la réalité. Bon.
Monsieur Benita, il attend le A. Le A-ha. Un rappelez du A. Mon cher qui va venir. A-ha. Voilà. Allez, rêverez à méditer. Je vous trouve bien calme.